Vous êtes bien sur Zoom Écologie, sur RFPP, 106.3 FM, c'est Zoom Écologie, l'émission scandaleuse aujourd'hui, une émission qui va rester dans les annales, avec la bande à Bébert, où nous allons aborder, sous le thème de l'environnement et des libertés, plein de questions aujourd'hui scandaleuses. Nous sommes le gala de verre de l'information. On va faire un massacre avec aujourd'hui comme animateur...
Eh bien, professeur, ça fait longtemps, là. Ça fait un moment que je ne suis pas venu. Donc, merci Johan qui fait technique, introduction, animateur et qui nous parlera du nucléaire sans frontières également. Donc voilà, vous êtes avec la bande à Bébert, 106.3 sur Zoom Écologie, radio FPP. Pour démarrer, on présente tout le monde. Donc on a Johan en cabine.
Bonjour.
On a Élise également.
Bonjour.
On a... deux squatteurs, Cédric et Loïc,
qui
sont loin du micro, donc on les entendra pas. Vous avez le droit de parler, c'est pas interdit. Et donc on a Cyril à ma droite et on a Clément qui lit le journal. Si je t'embête, tu le dis.
Hein. Je finis de préparer.
Mmh. Et tu prépares avec quoi comme journal?
Donc voilà, hein, le menu, hein, comme chaque jeudi avec la bande à Bébert, ça démarre avec l'apéro presse. Et cette semaine, pour démarrer, c'est Johan sur les news de Fukushima, parce que ça fait combien de temps? Parce que alors moi j'ai d'ailleurs, je vous raconterai, j'étais pas très loin de Fukushima là cet été. Et oui, heureusement le vent file à l'est, donc
sept
ça
mois.
Va officiellement.
7 mois.
Sept, on n'a pas encore éteint. Voilà. On n'a pas encore éteint les lumières. Oui. Oui, on n'a pas encore éteint la lumière parce que. Question Fukushima, c'est la centrale muette qui fait du bruit. Scandaleuse centrale, et là les informations sont. Waouh. Tu étais où autour de Fukushima?
En fait, j'étais en Russie. C'est-à-dire que la Russie n'est pas très loin du Japon. J'étais à Vladivostok, très exactement. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote qui est. Sur la radioactivité à Vladivostok. Vous savez comment appellent les habitants de Vladivostok la plage de Vladivostok? Ils l'appellent la plage de Mendeleïev parce que c'est la seule plage au monde où tu trouves tous les éléments que tu trouves sur le tableau de Mendeleïev. Voilà, et donc c'était à Fukushima, enfin c'était en face de Fukushima, à peut-être 200 km, un bras de mer de 200 km entre les deux. Quoi.
Et tu t'es baigné?
Bien entendu.
Eh ben, c'est pas gagné. Oui, alors... pour revenir sur les informations de Fukushima, là, on va c'est scandaleux, oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez une information positive?
Ouais.
Non.
Ouais.
Oui.
J'en ai pas. Donc, on va tout de suite embrayer sur des informations énormes, parce que là-bas, c'est pas terminé. Et si on fait un parallèle avec Tchernobyl, c'est pire, et c'est même pire, parce que là, on est un petit peu dans une sorte de bilan, et le souci, c'est que bilan, c'est quand c'est terminé. Et là, c'est pas terminé. Donc, on en trouve plein de hotspots de autour de Tokyo, dans la région de Shiba, tout autour de Fukushima, des rivières contaminées. On retrouve du plutonium, on retrouve des écoles contaminées, on retrouve... c'est un gros souci. Et pendant ce temps-là... à Fukushima directement, ça continue à fumer dans le numéro 3. On a des bribes d'informations sur l'instabilité des structures dans le numéro 1. Des craintes concernant le potentiel de risque de nouvel accident. Il y a quand même pas mal de gens qui, sur place, se posent de sérieuses questions. On a aussi le 5 et le 6 qui se rappellent à la mémoire. Des niveaux de radioactivité qui augmentent dans les deux réacteurs qui n'ont pas explosé. Hein. Donc c'est plutôt sympathique. Au niveau contamination, j'en ai déjà un peu parlé. Bon, ce qui est le plus embêtant, c'est les nombreuses zones où les enfants vont, qui sont clairement bien contaminées. Et on sent aussi que la population commence à réfléchir un petit peu plus. Il y a des gens, des mamans qui commencent à bouger vous mettent en contradiction l'absence d'action du gouvernement. Ah, aussi, au niveau insolite, parce que tant qu'on y est, hein, c'est quand même la catastrophe, une catastrophe extraordinaire.
Extraordinaire.
Voilà, extraordinaire. Merci Cyril. Des retours d'invasion. Excusez-moi, je bégaye parce que c'est énorme quand même. C'est quand même énorme. Est-ce que vous allez faire vos courses en ce moment ?
Non.
Bah, tu sais bien qu'on consomme pas, Johan.
Eh ben oui. Parce que si vous faites vos courses à Fukushima ou dans le Japon, vous risquez de vous retrouver avec des parpaings contaminés, des voitures contaminées, du thé contaminé, à des niveaux qui sont extraordinairement hauts. Dans le sens que on est plutôt dans de l'ordre de 50, 100, voire 1000 fois le niveau normal.
Alors, j'ai rencontré à Paris un monsieur qui me parlait, enfin qui m'a expliqué que les gens étaient autorisés à revenir auprès de Fukushima. Et du coup, je crois qu'il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle Evacuate Fukushima. Du coup, ces gens sont soumis aux radiations super fortes là, dont tu parles. Je sais pas si tu as entendu parler. Apparemment, il y avait un périmètre de 20 km, je crois, de sécurité. Mais au-delà, les gens sont autorisés à venir. Ils ont été réinstallés.
Tout à fait. Ils ont été plus ou moins autorisés. Enfin, il y a du laxisme de la part des officiels où, visiblement, on fait tout pour limiter l'impact, on va dire, social et médiatique de cette catastrophe. Déjà avec des normes qui sont trois fois plus laxistes que les normes appliquées lors de l'accident de Tchernobyl, qui les a déjà élevées. On laisse récupérer les affaires. Enfin, on pousse les gens à retourner sur les lieux contaminés, au point où c'est assez troublant parce qu'il y a des gens qui ont quand même conscience de la situation et qui y a l'histoire d'un l'équivalent d'un conseiller municipal qui se bat dans sa ville, appelle ça son dernier combat pour pousser les habitants à ne pas rester sur place parce que la ville est tellement contaminée que de toute façon les conséquences seront sur la santé irréversibles. Pas forcément mortel, mais bon, vivre malade, c'est pas mort non plus. Y a aussi l'histoire d'une communauté japonaise l'équivalent de moines qui se bat aussi contre la radioactivité en acceptant la terre contaminée, c'est-à-dire qu'ils poussent les gens à leur ramener la terre contaminée. Donc là, c'est triste, c'est terrible, c'était vraiment terrible comme situation. Et pendant ce temps, les officiels sous-estiment la catastrophe, toujours dans le but d'éviter une panique. Hein, c'est aussi à ça aussi, mais bon, c'est quand même à un point où ça devient ridicule, véritablement. Donc une sous-estimation permanente, des informations pour rassurer les Japonais, alors qu'on sait dorénavant que Tokyo a été fortement impacté par la contamination, notamment dans les premières semaines. Donc tout le monde en a bien bouffé. Et que tout ça va se payer sur le long terme. Et que surtout, le plus grave, c'est que ce n'est pas terminé. C'est que là-bas, c'est toujours instable. Il y a des problèmes de fuite, ça fume toujours. Visiblement, il n'y a pas une maîtrise de la situation comme ça l'a été lors de Tchernobyl. Et puis, ça fait bien rire aussi les US, les officiels... un officiel qui s'appelle Gregory B. Jackso, c'est chairman de l'US Nuclear Regulatory, lors d'une interview, ça l'a bien fait rigoler lorsqu'on lui a posé la question des morts liées à l'irradiation sur Fukushima. Donc c'est très étrange comme situation, une situation extrêmement grave, où la population est clairement pas protégée. Et à côté de ça, des officiels qui se marrent bien, quoi.
Voilà. En même temps, c'est jamais facile, cette question d'évacuation, parce que c'est quand même des gens qui sont contraints de quitter leur lieu de vie. Est-ce que t'as des infos, sinon des nouvelles par rapport au corium, sur la situation des coriums et dans les réacteurs ?
Non, TEPCO ne relâche pas beaucoup d'informations là-dessus. On sait que le corium s'est enfoncé profondément, mais pas plus. On sait que les structures sont fragilisées.
Donc pour rappeler le corium, pour les auditeurs, c'est le résultat de la fusion du réacteur. C'est-à-dire que c'est un mélange du combustible et des différentes gaines et métaux qui l'entourent, qui forment un espèce de magma très chaud, autour de 3000 degrés, très hautement radioactif. Et là, la question est toujours de savoir à quel degré, à quel niveau ça a percé la cuve et à quel niveau ça a pu éventuellement attaquer le radier, c'était la dalle de béton de protection qui se trouve en dessous. Voilà. Et est-ce qu'il y a un risque que ce corium se répande dans l'environnement et dans les nappes phréatiques en dessous?
Alors, la question, et on peut y répondre déjà un petit peu, parce que le corium, quasiment officiellement, on peut dire qu'il a dépassé le radier même. Il est en dessous du radier et dès le début, en fait, il a percé la cuve. Ça, c'est quasiment acquis. Au niveau des contaminations du sous-sol, visiblement aussi, ça, c'est acquis. Après, à quel niveau? Là, c'est là que l'information pêche. Par contre, il mesure dans les rivières aux alentours une contamination certaine. Et il y a d'autres aussi d'anecdotes d'ouvriers sur place qui sont véritablement négligés à un point où le droit du travail n'existe plus. C'est impossible. Où les ouvriers remontent des informations de jets de vapeur très hautement radioactifs qui émergent du sol, de conditions où... Les ouvriers spécialisés interviennent sur un lieu hautement contaminé, donc refusent d'y aller, puis le lendemain, il n'est plus contaminé. Donc il y a des choses très étranges qui se passent à Fukushima qui dépassent les consciences, on va dire. Voilà, donc c'est une situation qui est terrible. Terrible dans tous les sens du terme, sachant qu'elle n'est pas terminée et que c'est vraiment géré comme d'une mafia. Hein. On ne peut pas dire autrement, parce que vu le silence, le peu d'informations qu'on veut bien nous laisser, alors qu'on a tous les moyens pour identifier avec plus de précision la situation. Voilà, voilà.
Ouais, aujourd'hui encore, là, il y a un article qui est paru dans la presse qui citait l'IRSN, donc Institut officiel de sûreté de radioprotection, qui parlait de taux beaucoup plus élevés que ce qui avait été annoncé par TEPCO de fuite de césium dans l'océan, tout en essayant de rassurer un petit peu sur le fait que tout ça va bien sûr être très largement dilué, en s'interrogeant quand même sur les conséquences à proximité sur le littoral. Donc voilà, des taux de césium beaucoup plus importants que ce qui avait été annoncé au mois de mai, juin, sont en train de sortir officiellement. Je ne sais pas si tu as encore des choses à rajouter. J'ai vu dans des échanges avant l'émission que tu nous parlais aussi d'une fuite à la centrale de Tokai.
Oui, excusez-moi, je lis en même temps une info qu'on me donne. Il y a une autre info concernant Fukushima que je viens d'oublier, excusez-moi. Tokai, oui, il y a un problème apparemment. C'est déjà une centrale qui est fragilisée et visiblement, ils ont aspergé des ouvriers avec de l'eau radioactive issue du circuit primaire ou secondaire. On ne sait pas exactement, mais bon, c'est un autre incident qui se rajoute en plus. Et il y a pas mal d'anomalies qui apparaissent un peu, et à droite et à gauche d'ailleurs dans le monde, sur le fonctionnement des centrales. Il y a pas mal de centrales en ce moment qui s'arrêtent brutalement. Bon, c'est peut-être quelque chose de normal, on est peut-être un peu trop réactif maintenant par rapport aux incidents. Mais voilà, donc oui, Tokai, il y a un souci, et c'est pas la seule de toute façon au Japon.
Et rapide, dans deux minutes, est-ce que tu peux juste nous... parce que alors quand je suis parti dans mes longues... J'étais sur le terrain, envoyé très très spécial, hein. Et il était question, en fait, il y avait quelle était la relation en fait politique en fait avec la question du nucléaire au Japon, parce que il y a encore quelques mois, c'était il était question que le Premier ministre se mettait un peu en porte-à-faux par rapport au reste du gouvernement, notamment sur le futur en fait du nucléaire au Japon. Alors je ne sais pas si on a des news qui s'intéresse beaucoup à la question.
Alors le Premier ministre a démissionné. Naoto Kan a démissionné. Et pourtant, il avait dit qu'il démissionnerait une fois que la situation serait stabilisée. Elle n'est pas stabilisée. Ou elle est, colmatée, mais clairement, c'est pas ce qu'on appelle une situation d'arrêt à froid, comme ils l'ont mentionné. Un terme qui est abusif. Donc non, la situation politique, elle est clairement dans les mains des pro-nucléaires, de l'AUA, et au contraire, la population commence à s'énerver. On a vu les premières manifestations. Il y a actuellement une manifestation de mamans de Fukushima, de femmes de Fukushima, qui s'opposent à Tokyo, qui font un sitting à Tokyo, je crois, et d'autres sont prévues. Et clairement, depuis très longtemps, pour la première fois au Japon, ça s'oppose clairement, l'énergie nucléaire tel qu'il existait jusqu'alors.
Ok, bon, bah, Yoann, tu restes informé là de la situation à Fukushima, parce que je suis sûr qu'on va pouvoir en parler encore de nouveau le mois suivant. T'as une dernière information ou, sinon, on va peut-être parler du nucléaire.
Je crois qu'on
dans
va
nos
pouvoir
frontières.
En parler pendant quelques années encore.
Oui, c'est sûr.
Malheureusement.
Donc Clément, tu avais 2-3 nouvelles du côté de... Parce que le nucléaire, ça passe pas les frontières, mais si elles sont à l'intérieur de frontières françaises...
Ça passe pas les frontières, effectivement. Donc là, on va discuter de la consommation d'électricité en France, qui est quand même essentiellement d'origine nucléaire, à 80% en fonction des années. Mais l'hiver, il se trouve qu'on consomme beaucoup plus d'électricité que le reste de l'année.
Pourquoi ?
Parce qu'on a beaucoup de chauffage électrique et que malheureusement, eh bien, ça sert en partie à écouler la production nucléaire, mais parfois la production ne suffit pas et donc il faut lancer des centrales à charbon, à gaz, à fioul. Et puis parfois il faut même importer de l'électricité d'autres pays européens, comme l'Allemagne par exemple.
Je croyais qu'on était indépendant sur l'énergie.
Alors en général,
sauf l'hiver.
Sur l'année, on est plutôt exportateur d'électricité. Enfin, EDF, parce que nous, on n'a rien choisi. Mais l'hiver, quand il y a des pointes et que le mercure descend, on a besoin de support des autres pays voisins. Et donc l'Allemagne, qu'on accuse souvent de nous acheter de l'électricité à bas prix, alors qu'on est bien content de lui donner, enfin de lui vendre, nous en vend pas mal l'hiver, parce qu'elle, elle a moins de chauffage électrique et que ses centrales tournent... comme les nôtres en permanence. Et donc, il faut savoir que chaque degré de moins sur le thermomètre, c'est en fait 2300 MW, soit à peu près la puissance de deux centrales nucléaires, enfin de deux réacteurs nucléaires. Et donc, on voit que sur les 58 réacteurs que compte la France, dont pas mal sont en arrêt pour visite et autres soucis techniques, on voit que quand on est sur des températures très basses, parfois il va falloir déclencher, enfin mettre en route des centrales thermiques fossiles, donc charbon, gaz et pétrole. Et il faut aussi acheter de l'électricité outre-Rhin, parfois. Et donc le problème, c'est que l'Allemagne, enfin là, c'est, je lis un journal hautement publicitaire.
Très intellectuel.
Le journal Direct Matin d'aujourd'hui.
T'étais même pas obligé de le dire.
Moi, je le dis quand même, parce que si Direct Matin le dit, c'est que franchement, c'est inquiétant.
C'est qu'il y a consensus.
Donc, il y a.
C'est inquiétant de voir Direct Matin dans la bande à Bébert, quand même.
Dis donc.
Je
le jette en sortant. Non, mais dans l'IB, ils n'en parlent pas. Alors. Ouais, bon.
Juste en dessus, je vois une grosse pub Paris-Malais à 659 €.
Tout à fait. Nous n'irons pas. Il faut plus prendre l'avion parce que le climat est important. Moi, je le dis comme ça. Bon. Bah, bref, là, on est sur la consommation d'électricité. Et donc les Allemands, comme vous le savez peut-être, ont décidé de sortir du nucléaire assez rapidement. Enfin, bon, ils n'ont que 17 réacteurs, mais...
Ah, ça se voit qu'ils ont une femme au pouvoir.
Ouais, peut-être. C'est peut-être grâce à ça. Bon, elle n'a pas l'air commode, quand même. Hein. Enfin... Je sais pas, je la connais pas personnellement, mais donc ils ont et donc les Allemands, ils ont 8 réacteurs sur 17 à l'arrêt, et puis ils vont les fermer le plus vite possible, enfin en quelques années quand même. Et donc on va être embêtés sans doute cet hiver, parce que si on n'arrive pas à acheter d'électricité à l'Allemagne, les autres pays qui sont déjà les autres pays voisins qui sont quand même pas très exportateurs en hiver, bah, ils vont peut-être pas pouvoir nous en vendre beaucoup. Donc voilà, on a peut-être quelques barrages hydrauliques, mais ça va être un petit peu chaud. Donc il y a des risques de pénurie d'électricité, notamment en Bretagne et en région PACA, dans le sud. Donc voilà, on sait bien que ceux qui ont des convecteurs chez eux ne sont pas forcément responsables de leur présence. On sait bien qu'il y a un lobby nucléaire qui, depuis des années, a imposé le chauffage électrique et que donc, notamment, des locataires ou des propriétaires sont contraints de se chauffer avec l'électricité. Mais la question reste entière sur comment passer à une société plus autonome, notamment au niveau électrique. Enfin, je vous conseille de relire ou de lire le scénario Négawatt dont on avait parlé le mois dernier. Et ça permettrait d'entrouvrir des perspectives positives là-dessus. Mais donc, soyez pas étonnés si cet hiver, vous avez des coupures d'électricité. Voilà.
Ça a été confirmé hein, quand même, cette information-là, par monsieur Eric Besson lui-même, monsieur Cool Cool, comme disent les jeunes.
Cool Cool.
Cool Cool.
Vraiment.
Peut-être on va passer à la suite de l'apéro presse.
Bah, de toute façon, sans transition, là, on a faim. Et on a faim.
Mais avant de manger, je voulais juste dire un truc sur le nucléaire.
Ah.
Alors, Aurélien, donc, qui a quitté Paris pour Marseille.
Ancien de la bande à bébé. Hein, il est très, très, très spécial.
Ah, il est en région PACA, il se chauffe à l'électricité.
Il est du mauvais côté du monde.
Il est mal barré. Hein.
Alors, une fois, il nous avait fait un article et une investigation extraordinaire sur les crottes de lapin du côté de Tchernobyl.
C'était pas Tchernobyl, c'était sur le site des essais nucléaires américains, en fait, de la première bombe atomique en fait, américaine. Et donc, c'était les crottes radioactives.
Voilà, les crottes de lapin, donc là-bas, étaient radioactives. Et donc là, on a sur Fukushima, donc pour faire un parallèle avec les. Enfin, grâce aux lapins, on peut voir les impacts du nucléaire. Donc après les crottes radioactives, on a eu à Fukushima la naissance d'un lapin sans oreille. Donc au moins, il ne pourra pas entendre toutes les conneries autour de lui. Mais bon, comme quoi, il y a déjà des impacts sur la naissance des animaux. Donc après, je ne sais pas ce que ça donnait chez les humains, parce qu'à mon avis, il doit y avoir quand même des impacts.
Bah, il n'y a qu'à voir les suites de Tchernobyl. Je pense que quand je disais qu'on n'a pas fini d'en parler et qu'on pourra en parler pendant plusieurs années, c'est que malheureusement, il va y avoir des drôles de surprises.
Effectivement, ils ont mesuré des personnes fortement contaminées et qui sont radioactives. Et justement, pour répondre à la question d'Élise, il y a des débris qui flottent issus de la catastrophe de Fukushima et du fameux tsunami. Et on estime que Hawaï sera touché bien avant les 2 ans supposés. Donc, si vous vous baignez dans le Pacifique, méfiance.
Et donc, bah, on a faim. Il paraît que la chronique s'appelle « Mange ta viande ».
Oui.
Élise.
« Mange ta viande à la cantine ». Voilà, c'est le nom de ce dont je vais parler maintenant. Donc, en fait, il y a donc pour vous expliquer un petit peu, il y a un arrêté et un décret qui ont surgi le mois dernier. Donc moi là, j'ai essayé d'étudier un petit peu. Donc c'est un arrêté qui parle sur, c'est un arrêté sur la restauration scolaire. Donc arrêté relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Donc j'ai lu pas mal de choses sur cet arrêté. Et avant de me faire mon avis à partir d'avis, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il disait directement. Donc, premier article, c'est pas très long. Donc, les déjeuners et dîners servis dans le cadre de la restauration scolaire comprennent nécessairement un plat principal, une garniture, un produit laitier et au choix une entrée ou un dessert. Donc, on dit, bon, ça a l'air à peu près complet ce que mangeront les élèves dans les établissements scolaires. Article 2, l'eau est à la disposition sans restriction. Bon, je pense ici, il y en a qui auront préféré de la bière, mais bon, là, on est mineurs. Hein. Donc le sel,
ce sont les enfants tout de même.
Bah oui, le sel et les sauces ne sont pas en accès libre. Bon, alors je sais pas comment c'était à votre époque. Moi j'ai travaillé dans un lycée l'année dernière et c'est vrai qu'il y avait autant de mayonnaise que de ketchup que de frites. Donc c'était un peu inquiétant, surtout vu la composition de ces.
Donc l'État protège les enfants, c'est ça.
L'État protège les enfants.
Personnellement j'ai jamais trouvé mes frites dans la mayonnaise.
Alors après, on poursuit, donc l'arrêté s'arrête là, et dans les annexes, donc l'arrêté définit en fait 20 repas successifs, donc pour guider les chefs cuisiniers des établissements scolaires. Donc 20 repas successifs correspond en gros à un mois de repas, je pense à peu près. Alors, déjà, là, on a un peu plus d'informations. Donc, un plat protidique, c'est un plat principal à base de viande, poisson, œufs, abats ou fromage. Pour garantir les apports en fibres et en vitamines, donc là, il convient de servir fruits et légumes, des légumes cuits, secs, féculents, céréales. Les apports en calcium, donc là, sont garantis par les produits laitiers. Les apports en fer et en oligo-éléments, donc au moins 4 repas avec des viandes non hachées. Au moins 4 repas avec du poisson ou une préparation avec au moins 70% de poisson. Et au moins 4 repas à base de viande, de poisson ou d'œufs contenant moins de 70% de ces produits. Ce qui nous fait qu'on a 16 repas sur 20 à base de viande ou de produits d'origine animale. Et un produit laitier à chaque repas. Par contre, une variété garantie au niveau des garnitures. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'en pensaient les parents d'élèves, différentes associations. Alors d'abord, dans la société civile, on se félicite de l'alimentation variée qui en gros est encouragée et définie dans cet arrêté. Par contre, là où on voit s'élever la critique, c'est surtout au sein des associations de défense des animaux et associations végétariennes, puisque en gros, la viande, enfin tous les produits d'arrêt d'origine animale sont présents. Et en gros, il n'y a pas de proposition d'alternative quand il y a un repas avec de la viande. Alors là, je me suis appuyée sur le communiqué de certaines associations. Et on voit que le lobby de l'industrie agroalimentaire est relativement présent. Et un peu le fantôme de cet arrêté. Donc là, par exemple, on nous informe dans un communiqué de presse que l'arrêté s'appuie sur les recommandations du groupement d'études des marchés de la restauration collective et de la nutrition. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce groupement, le groupement d'études des marchés de la restauration collective et de la nutrition.
Ah, si, j'ai rendez-vous avec eux demain, d'ailleurs.
Ah, bah voilà.
En emploi ? Ils ont des cravates, je crois.
Ouais. Ils ont vraiment des cravates.
Quand j'entends études de marché, déjà, j'ai peur.
Eh ben, tu as raison d'avoir peur. Parce que, en gros, c'est des représentants de l'industrie agroalimentaire. Alors, parmi eux, il y a notamment le Centre des viandes, l'Association nationale des industries agroalimentaires, le Syndicat des entreprises françaises des viandes et Nestlé.
Que des gens sympas.
Que des gens sympas. Bon, encore.
Il est marrant, gros quick, non ?
Donc c'est ce groupement qui comprend toutes ces personnes qui a émis donc des recommandations sur lesquelles les ministres se sont basés pour faire cet arrêté. Donc déjà ça c'est dénoncé par certaines associations. Donc il y a aussi le fait que cet arrêté n'est pas en conformité avec l'article L230-1 de la loi de la modernisation de l'agriculture et de la pêche.
Restez bien sur 106.3 FM.
Du 27 juillet 2010.
Radio juridique.
Donc en gros, c'est une loi qui stipule que la politique publique de l'alimentation doit assurer à la population une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité gustative et nutritionnelle et produite dans des conditions durables. Et là, je vous rappelle, on avait fait une émission spéciale sur la viande. Il serait qu'une trop forte consommation de viande n'est pas favorable à l'environnement parce que ça entraîne... je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu des...
Plus que ça, parce qu'on a quand même quelques carnivores autour de la table. C'est assez bluffant sur les arguments, pas que sur l'aspect environnemental, mais également sur la santé. Et on avait effectivement échangé sur l'introduction en fait, du végétarisme petit à petit dans le cadre scolaire. Donc, c'était très intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez du nom de l'invité.
Nous avions reçu une personne de l'Association végétarienne de France. Et donc, d'ailleurs, on peut retrouver cette émission sur notre site zoom-écologie.net. Je crois que c'était au mois de juin ou au mois de mai 2011. Donc, ça fait pas si longtemps. Et je crois qu'elle préconisait, enfin l'association préconisait au moins une journée végétarienne par semaine, donc le lundi. Ils disaient, ils ont un guide qui s'appelle le lundi, c'est végé. Donc en même temps, dans l'arrêté, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même 4 jours sur 20 où il n'y a pas de viande, ni de poisson, ni d'œufs. C'est ouais, magnifique.
Mais si ces jours, c'est le mercredi.
En tout cas, je vous invite à aller voir un film qui s'appelle Nos enfants nous accuseront, qui justement montrait un peu en avant le fait de manger bien, sain pour les enfants, et que c'était un peu du rôle de l'État d'essayer de faire un petit peu bouger les choses à ce niveau-là en mettant une nourriture locale plutôt qu'une nourriture qui vient directement de l'agrochimie en particulier.
C'est vrai que ça, c'est un... Il y a notamment le maire du deuxième qui a fait un communiqué suite à cet arrêté, qui lui, justement, avait essayé de mettre en place un repas végétarien par semaine, voilà, de montrer qu'on pouvait manger autrement, enfin manger avec autant d'apport sans viande. Et là, pour en revenir à cet article, à cet arrêté, le problème aussi, c'est qu'on éduque les enfants à manger de la viande pratiquement à tous les repas. Donc, comme on l'avait vu, donc la viande, c'est aussi du transport, donc c'est du CO2, c'est l'industrie de la viande, parce que c'est plus la petite vache qui court dans les champs, etc. C'est extrêmement polluant, et d'ailleurs, ça m'avait extrêmement... vraiment impressionné la pollution qui est engendrée par cette industrie. Et donc là, on éduque les enfants à manger de la viande pratiquement à tous les repas. Et ça, c'est les futurs consommateurs. Et on va toujours dans le sens d'une consommation quotidienne de viande. Et ça va aussi... parce que là, du coup, ça devient presque obligatoire et ça va à l'encontre d'initiatives d'associations. Voilà, comme par exemple, d'associations ou d'institutions publiques.
En même temps, je voulais dire que la cantine n'a rien de mieux pour faire des végétariens, parce que la viande est tellement dégueulasse que après.
En même temps, les carottes étaient aussi assez dégueulasses.
Ouais, bon, ok. Bon, il faut qu'ils mettent de la bière, je pense. C'est une bonne idée.
En tout cas, un bel exemple justement de production de masse de viande, il n'y a qu'à aller voir en Bretagne, là-bas, ils ont des super algues vertes qui trônent sur les côtes.
Bon, bah, tout ça. Bon, pour apaiser l'esprit et les ventres, un petit peu de musique. Johan, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Je vous propose un qu'on n'écoute pas d'habitude, qui s'appelle Duval MC. Hein. Pas dans la famille des MC circulaires, MC égoïnes, non, là c'est Duval MC, etc. Je peux vous proposer Sortir du nucléaire, où il se marre en studio, là j'ai raté ma blague, mais c'est bon. C'est... Alors Sortie du nucléaire ou Blabla durable, voilà, c'est les deux que j'ai sous la main immédiatement.
Wesh.
Et après, on parle du lac d'Urmia en Iran et puis également de l'association Nord Palme à Port-la-Nouvelle dans l'Aude. Johan, on n'attend plus que toi. C'est parti.
Savoir à quoi ressemblera le monde dans 10 ans. Asseyez-vous sur mon divan, je sors ma boule en cristal durable. Voilà le tableau du futur probable. On aura des centrales nucléaires durables qui produiront des déchets atomiques durables. On aura des ghettos durables, des CRS durables, une politique ultra sécuritaire durable avec des puces RFID durables partout. Tout sera fiché dans des data centers durables. Les incinérateurs d'ordures durables valoriseront les déchets en dioxine durable, sur des millions d'hectares de monoculture durable, de toutes les surfaces de terres cultivables, des pays en voie de développement durable, il y aura que du soja OGM durable, pour faire le biocarburant des 4x4 durables, qui sur des 4x4 voies éco-compatibles, autour des mégapoles éco-responsables, vont faire monter l'effet de serre durable.
C'est le blabla durable des communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing. La machine.
la sécu, les retraites, c'était pas durable. Les services publics non plus, c'était pas durable. On va plutôt investir dans les tasers durables. Et les pauvres, on les mettra dans des prisons durables. On va mettre aux frontières des barbelés durables. On va expulser Mbaye, un charter durable. On aura que des mutuelles chères, mais durables. Pour nos Alzheimer durables, nos chimios durables. On continuera à mettre nos milliards durables dans les budgets colossaux de nos armées durables. Grâce auxquelles on maintiendra des dictatures durables. Pour continuer en Afrique le pillage durable. Déforestation, désertification durable. Tous les ingrédients d'une bonne famine durable. À les entendre polluer moins, c'est sauver la terre. Voilà l'équation, cherchez l'erreur.
C'est le blabla durable des communicants minables. Des publicitaires experts en greenwashing.
On va faire des déchets de plutonium vitrifié qui vont durer 20 millions au lieu de 30 millions d'années. On va mettre des géraniums sur les radars. On va chanter tous ensemble. No more marée noire, no more marée noire, no more marée noire, no more marée noire. Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot iront dans leur ministère en hélico durable. Et pour leurs efforts louables, Nestlé, Total, Areva et Aventi seront un prix Nobel. Prix Nobel de quoi? Mais t'as pas suivi ou quoi? Prix Nobel du fameux développement durable. On va se racheter le droit d'émettre du CO2 sur les marchés boursiers de l'économie durable. Les pollueurs payeurs vont faire des hôpitaux et soutenir les fondations pour un monde durable. Mais quand tu as grandi vers la Vera ou Panto, tu sais que certains méfaits sont pas réversibles.
Durable des communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing. C'est le blabla. C'est le blabla. Durable des communicants minables. Méfiez-vous de l'arbre qui cache la machine.
Voilà, c'était Blabla Durable de Duval MC. Tout de suite, la suite.
Donc vous êtes toujours sur 106.3, Radio Fréquence Paris Pluriel, avec la bande à Bébert. Et maintenant, le...
Que va-t-il se passer ?
Le squatteur me pique mon papier au moment où je suis censé la lire. Et donc, le nom de la chanson, j'ai pas entendu, Johan, parce que j'ai vu que c'était Duval MC, mais c'est...
Eh, faut suivre, hein. Blabla durable.
Ok, donc là, on enchaîne. On va un petit peu voyager. On va se retrouver au Moyen-Orient avec une problématique liée à l'eau, à la géopolitique de l'eau, et notamment dans une région qui est un petit peu à cheval sur plusieurs pays, Kurdistan. Mais il me semble que là, ça se passe en Iran et on parle du lac Urmia, Cyril.
Voilà. Le lac Urmia, c'est le plus grand lac d'Iran, qui est lentement en train de s'assécher. Les groupes environnementaux craignent que la construction de nouveaux barrages sur les rivières n'alimente la baisse du niveau de l'eau du lac. Une nouvelle liaison à travers le lac, donc une liaison routière, pourrait également gêner la circulation de l'eau et menacer la vie aquatique. Le lac Urmia est protégé par l'UNESCO. C'est un lac qui représente 464 000 hectares de masse d'eau, le plus important lac d'Iran. C'est aussi un des lacs des plus salés du monde qui représente un habitat important pour les oiseaux, la vie aquatique, y compris des crustacés exceptionnels. Selon l'université d'Urmia, la profondeur maximale du lac a chuté de 6 à 12 mètres. Cela est dû à la fois à une sécheresse en cours depuis 13 ans, un manque de tombée d'eau, mais aussi à une politique de l'eau. Sur les rivières qui alimentent le lac, il n'y a pas moins de 20 barrages qui ont été construits ou sont en construction. Alors, pour des besoins industriels, etc. Par ailleurs, l'eau, et puis on va voir, il y a peut-être d'autres questions derrière. Par rapport à l'eau, l'eau du lac est drainée par la consommation ou l'irrigation. Cette source d'eau sera à l'avenir beaucoup plus faible. Une conséquence directe de cette politique est que l'eau est beaucoup plus salée qu'auparavant. La salinité, selon les autorités locales, a augmenté de 340 grammes par litre, un niveau bien au-dessus du niveau normal d'environ 200 grammes par litre de ce lac, donc ce qui perturbe considérablement l'écosystème local. La pollution est la troisième menace pour l'écosystème sur place. Le lac d'Urmia est situé dans une zone agricole et industrielle. Un manque de contrôle des eaux usées provoque par ailleurs le reversement de saleté dans le lac. Le mois dernier, des groupes environnementaux ont protesté contre un nouveau projet de liaison routière de 130 nouveaux kilomètres qui passerait à travers le lac. La route serait, selon les militants, la goutte qui peut détruire l'écosystème unique, mais les autorités prévoient en plus un élargissement du projet pour favoriser la circulation routière en détriment de la nature. Ce que je suis en train de dire là, c'est un article de Joren Gettmans qui date du mois de mai. Il y a eu d'autres infos depuis. Le président iranien, donc Mahmoud Ahmadinejad, a fait savoir, suite aux manifestations, qu'il y aurait de l'eau d'une autre région qui sera guidée vers ce lac pour compenser les pertes. Le président propose également la construction de pipelines sous le barrage permettant de plus circulation entre les deux parties du lac. Voilà, les militants environnementalistes continuent de protester au fur et à mesure que le lac s'assèche. Le lac Urmia représente pour eux le symbole d'un problème plus vaste qui touche le pays. L'Iran s'engage dans de grands projets de construction routière, hydraulique ou portuaire sans avoir mené une enquête approfondie sur l'impact environnemental de ces projets. Voilà, donc ça c'était une info qui venait d'un site qui s'appelle ipnouvelle.be, un site belge. Et j'ai trouvé des infos sur un site qui s'appelle Global Voice, qui donne beaucoup d'informations, notamment en allant chercher des blogueurs un peu partout. Il y a eu des manifestations fin août et puis encore au mois de septembre. Alors il y a des liens, c'est difficile d'aller chercher ces infos là, il faut aller chercher des liens en farsi, il faut traduire. Des milliers de manifestants ont envahi, le 28 août, ont envahi les rues de la ville de Tabriz et Urmia dans la région de l'Azerbaïdjan iranien. On n'est pas dans le Kurdistan, hein, par rapport, on en reparlera un peu après, dans la région de l'Azerbaïdjan iranien, pour appeler le gouvernement iranien à sauver le lac Urmia, un des plus grands lacs salés du monde qui est en train de s'assécher. Les autorités iraniennes ont réagi rapidement en réprimant les manifestations. Les nouvelles ont été censurées dans les médias basés en Iran, mais plusieurs vidéos ont été mises en ligne sur YouTube et les blogueurs ont inondé la blogosphère de billets sur le sujet. Le blogueur Umir Sikerli écrit qu'il y a eu des affrontements dans les rues avec les policiers qui ont battu et même attaché des manifestants aux arbres. Certains bloqueurs ont appelé les Iraniens à soutenir les activistes azéris et à relancer les manifestations contre le régime dans tout le pays. La construction d'un barrage sur une partie du lac associée à une récente sécheresse a diminué de manière significative la quantité annuelle d'eau reçue par le lac. Cela a augmenté la salinité, éloignant beaucoup d'oiseaux et menaçant l'écosystème par des dommages permanents. Si le lac s'assèche, les milliers, presque millions de personnes vivant autour devront s'installer ailleurs pour survivre. Des manifestations à Urmia, les gens affirment que le lac est en train de disparaître et que les autorités en sont responsables. Azarekan écrit que tout a commencé dans la région de l'Azerbaïdjan et que nous, Iraniens, devrions maintenant soutenir leur lutte et faire ce que nous pouvons pour arrêter la répression du peuple azéri par les forces du régime. Il déclare qu'il s'agit d'une opportunité rare et que nous devrions continuer à manifester jusqu'à obtenir les libertés. One Free Queen Three écrit que le lac Urmia ne fait pas de différence entre Téhéran et Tabriz, que nous devrions nous organiser partout dans les semaines à venir. Mosbat Mil dit les gardes révolutionnaires sont responsables de la gardiens de la révolution sont responsables de la construction de tels barrages dans le but de faire de juteux profits. Nous devrions être conscients que les gardes révolutionnaires ont une cyberarmée. Dans des occasions telles que celle-ci, ils publient et partagent des liens destinés à diviser les dogus du Chab. D'autres appellent les Iraniens à défendre la Urmia et l'Azerbaïdjan. Le bloqueur écrit que nous sommes tous piégés par le régime et que nous devons protéger notre héritage naturel et culturel. Il y a beaucoup de manifestations en ce moment. Je peux aussi citer l'association culturelle et revendications démocratiques du peuple azéri, en Azerbaïdjan du Sud, qui est au nord-ouest de l'Iran, qui dénonce, lui, une politique aussi raciste du gouvernement contre les Azéris et qui utilise une politique de terre brûlée. Il y a actuellement une bombe de 10 milliards de tonnes de sel qui menace la vie de 20 millions de personnes en 5 pays autour du lac, l'Iran, l'Irak, la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà. Je peux citer aussi une information qui vient d'un site qui est le collectif Solidarité Iran Paris, donc qui est le site soliranparis.wordpress.com. Pour le chef des forces répressives de la région de l'Azerbaïdjan iranien, les militants écologistes iraniens et azerbaïdjanais sont des terroristes. Le commandant des forces répressives de la province iranienne de l'Est, Azerbaïdjan, a récemment déclaré « La plupart des personnes arrêtées lors des séditions liées au lac Urmia sont des criminels avec des dossiers chargés qui avaient d'autres plans que de sauver le lac ». Massoud Khorramia, le chef des forces répressives locales, a déclaré « Ce groupe de personnes ont été arrêtées en raison de leur activité criminelle et parce qu'elles perturbaient la sécurité publique. Des dossiers criminels ont été déposés contre elles et ont été remis aux autorités judiciaires ». Massoud Khorramia a ensuite conclu en disant « Un groupe de ces gens qui n'ont pas joué... qui n'ont pas joué un rôle central dans ces activités subversives ont été trompés, ont été la plupart libérés sous caution. La volonté du régime de criminaliser tous les militants écologistes, azéris et iraniens qui se battent contre l'assèchement du lac, qui risque de provoquer une catastrophe majeure dans la région, est donc flagrante. Elle se traduit au niveau de la province par des dizaines d'arrestations quotidiennes. Depuis ces deux derniers mois, d'importantes mobilisations très durement réprimées ont eu lieu dans les principales villes, la province de l'Azerbaïdjan iranien est situé au nord du pays. Situé dans le nord-est de l'Iran, l'Urmia est le seul plus grand lac du Moyen-Orient avec une surface qui oscille entre 5200 et 6000 km². Comme la mer Morte, il est extrêmement salé. Depuis 1967, il était classé comme zone humide et protégée et l'Iran s'employait à préserver et à développer un tant soit peu sa faune et sa flore. Dans les faits, il n'en est rien depuis. Le régime a continué un plan de construction de plusieurs barrages sur des rivières qui lui apportaient des apports d'eau douce, comme le Talkeh ou les rivières jumelles, Zarineh et Simeneh, qui ont contribué à son assèchement progressif. Tout ça nous rappelle un peu la mer d'Aral. Et autour de ces histoires-là, on voit tous les enjeux géopolitiques autour de l'eau. Voilà. Quand on parlait du Kurdistan, ça m'emmène un petit peu sur la situation kurde, qui n'est pas très très loin de là, et qui est aussi répartie entre la Turquie, l'Irak, l'Iran, la Syrie, où là aussi, notamment en Turquie, il y a des grands projets de barrages pour des politiques industrielles. Et puis ça va un petit peu plus loin que ça, puisqu'on voit carrément que dans certaines régions, il y a une volonté claire de couper l'approvisionnement en eau de villages, de communautés kurdes en rébellion. Donc on peut retrouver beaucoup d'informations là-dessus sur un site qui s'appelle Fedo Sonore. Donc Fedo comme la pause... et sonore comme le son, pour une série d'émissions qui ont été faites par cette association. C'est un peu du copinage, hein, je précise quand même, mais je leur tire mon chapeau. Il y a plusieurs heures d'écoute d'émissions disponibles sur ce site fedosonore.net, où on peut avoir des informations sur ce qui se passe un peu sur le Kurdistan et sur les politiques industrielles des barrages qui est en train de couper l'eau sur des communautés kurdes ou d'en inonder certaines, comme par exemple les Alévis.
Juste pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, on peut aussi, ça fait penser à l'histoire de ce qui se passe un peu à Los Angeles en ce moment, où on fait cultiver de l'herbe pour faire des golfs, ce genre de choses. Donc le fleuve, il finit un peu, à un moment ou un autre, par être un peu pompé à la source, et puis on finit par faire des gros projets pour détourner les fleuves voisins pour alimenter une ville qui ne devrait pas être là, tout simplement. Et ça fait penser aussi à un problème un peu plus global, qui est l'acidification des eaux dans l'océan. Et alors, juste pour finir là-dessus, les scientifiques ont quand même mis en avant que, à partir d'un certain taux d'acidification, les mollusques et les poissons ont du mal à faire leur carapace ou leur squelette. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on pourra bientôt manger des poissons sans avoir mal en bouffant les arêtes. Bon, ça, ça part du principe qu'il reste encore des poissons, parce que vu la surexploitation qu'on fait des océans actuels, genre la pêche en eau profonde, c'est pas gagné. Mais bon, voilà.
On aura l'occasion, peut-être dans une future émission Zoom Écologie, de revenir un peu plus globalement sur cette problématique de l'eau.
Oui, parce que le parallèle en fait, avec la mer d'Aral, elle peut être largement faite pour se projeter en fait, dans l'avenir de ce que pourrait devenir le lac Ourmia. Effectivement, on peut voir ce qui est devenu la mer d'Aral, et notamment la région autour de la mer d'Aral est une des régions où le taux de cancer est le plus élevé au monde, à cause du sel, justement, qui se dépose, et on a des déserts entiers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, La Rencontre du quatrième type, où il y a un bateau, un navire en plein milieu du désert. Et ben c'est en fait c'est l'anciennement mer d'Aral.
Tu peux voir sur cette image, c'est pas très radiophonique, mais c'est le lac Ourmia où on voit le même genre d'image.
De gros tankers au milieu du désert. Voilà.
D'un désert de sable.
Heureusement, en France, on a les nappes phréatiques. Enfin, quand je dis ça, elles sont un peu en ce moment épuisées depuis 10 ans. Ça continue.
Voilà, sans transition.
Sur ces bonnes nouvelles.
Sur ces bonnes nouvelles, nous allons dans ce qu'il faut dire, le département le plus beau du monde. C'est l'Aude.
Oh, t'es pas patriotique.
Non, je suis pas patriotique, je suis chauvin nuance.
T'es chauvin.
Et donc, nous allons en Port-la-Nouvelle sur le pourtour méditerranéen de l'Aude.
Alors, nous vous avions préparé un petit son d'un entretien avec le collectif Nos Palmes. Mais comme ce son dure 10 minutes, vous pourriez l'apprécier à la prochaine émission de la bande à Bébert. Donc en gros, pour vous expliquer un petit peu le contexte, je suis allée à Lézan cet été aux rencontres pour les énergies alternatives, ou je ne me rappelle plus exactement. Et donc j'ai rencontré le collectif Nos Palmes. Donc il m'a expliqué qu'il se battait contre un projet de construction d'une raffinerie d'huile de palme à Port-la-Nouvelle. Que le professeur connaît très bien. Alors, je sais pas quel.
Tout à fait. J'ai joué au foot et au rugby au milieu des raffineries de Port-la-Nouvelle.
Je me disais bien qu'il y avait quelque chose.
Mais ça mène à tout, hein, comme quoi.
Et donc en gros, ils m'ont expliqué qu'il y a Bon, je vais faire un résumé un petit peu de l'entretien.
On retrouvera hein, sur le blog de Zoom Écologie. Hein. Ouais.
Donc, en gros, il y a le projet de construction d'une raffinerie. Donc, c'est très important pour la France parce qu'il y en a très peu dans le monde. Donc, je crois qu'il y en a 2-3 dans le monde. Et là, ce serait la 3 ou la 4e raffinerie d'huile de palme. Donc, eux, ils m'ont soulevé tous les problèmes que ça pouvait engendrer. Alors, tout d'abord, comme c'est un port, pour revenir à la problématique de l'eau, donc ils m'ont expliqué que c'était transporté dans des bateaux qui sont de très mauvaise qualité et qu'il y a déjà eu des accidents. Et donc de la même façon qu'on a une nappe de pétrole quand il y a un problème avec un bateau qui transporte du pétrole, ça entraîne des nappes d'huile de palme paraffinée sur des kilomètres. Sauf que là, il y a un petit truc en plus, mais je m'en souviens plus... ce que c'est. Donc c'est aussi extrêmement polluant en cas d'accident lors du transport. Il y a aussi le problème de la culture. Donc là, l'huile de palme viendrait du Liberia. Donc ça implique la plantation de palmiers industriels qui vont prendre la place des palmiers traditionnels. Parce que les Libériens, en fait, ont l'habitude de cultiver le palmier. Donc, il y a des palmeraies. Mais c'est une des cultures traditionnelles. Ils en font également un usage quotidien. Parce que nous, on a l'huile d'olive ou le beurre, suivant où on se situe. Eux, ils utilisent l'huile de palme. Et donc là, ils seraient privés de cet usage et de cette culture. Et pour se diriger vers des grandes cultures destinées à l'exportation, grandes cultures de palmiers. Donc voilà un petit peu pour résumer la situation. Donc il y a le collectif Nos Palmes qui s'est monté, qui a fait une action courant septembre. Donc vous pouvez retrouver certaines informations sur leur site. Je ne sais pas si vous avez des remarques.
Site internet, on tape Nos Palmes sur
collectif Nos Palmes.
On trouve directement leur chef.
Après, on pourra peut-être les appeler une prochaine fois, la prochaine émission, pour savoir comment s'est passée leur action et où ça en est de leur mobilisation.
Pardon, vous trouverez l'émission, l'interview de l'émission sur zoom-ecologie.net en téléchargement sans problème.
Bon, bah, le temps file, on finit rapidement sur le Digespliff. On a plusieurs choses. Il y a une soirée de soutien, Marjolaine et la Crirane, soirée de soutien. Qui c'est qui nous en parle ?
C'est moi. Donc une soirée de soutien, un repas de soutien même pour l'association Virage Énergie Île-de-France.
Est-ce qu'il y aura de la viande ?
Alors c'est à la rôtisserie, mais c'est végétarien, bio et relativement local. Et pas cher, avec un repas à prix libre et des boissons à 1 euro. Donc ça se passe à la rôtisserie demain soir, vendredi 28 octobre, au 4 rue Sainte-Marthe, donc métro Belleville ou Goncourt. Venez nombreux, il n'y a pas de... rendez-vous spécial, le dernier service est autour de 22h30, donc voilà, de 19h30 à 22h30 globalement. Et l'association Virage Énergie a déjà été présentée, je crois, mais donc en gros, l'objectif c'est de faire un scénario énergétique pour sortir du nucléaire, baisser la consommation d'énergie, avoir plus d'équilibre social et en gros appliquer le scénario négawatt à l'échelle de la région Île-de-France.
Il y a de la bonne bière bio locale.
Également, de la vallée de Chevreuse, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres informations ? Marjolaine, voilà, le salon Marjolaine qui aura lieu exactement du 5 au 13 novembre 2011 à Paris 12e, au Parc Floral de Paris. Salon bio et développement durable. Et peut-être que quelqu'un peut nous parler de la tracto-vélo de Notre-Dame. Quelqu'un a des infos ?
Moi, j'ai des infos. Donc, il y a une, comme vous le savez, il y a un mouvement par rapport à la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc,
côté près, de Nantes.
Côté de Nantes, voilà, alors que l'aéroport de Nantes n'est pas saturé. Il y a un projet de construction d'un aéroport sur des terres agricoles, etc. Et donc là, il y a une tracto-vélo, donc c'est une manifestation avec tracteur plus vélo, qui est partie de Nantes et qui arrivera le 12 novembre à Paris. Et voilà, et sur son itinéraire, elle fait étape dans différents lieux de lutte. Donc d'après ce que j'en sais, elle passera à Saclay le 11 novembre. Voilà, parce que là aussi, il y a des projets qui menacent les terres. Donc, si vous voulez rejoindre ou accueillir la tracto-vélo...
Est-ce qu'il passe à la radio FPP, rue de la Solidarité ?
Ah bah, ça, ce sera l'équipe du jeudi, du 12.
Je pose la question. Est-ce qu'on pourra avoir des tracteurs à la place des fêtes ?
En tout cas, on a déjà eu Radio ZAD, une radio pirate qui émet sur la zone à défendre. Dans l'émission L'actualité des luttes le midi.
Bon ben voilà, c'est bon, on a passé une heure ensemble, la bande à Bébert, Zoom Écologie 106.3, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel. On est avec, on a fini avec Johan, avec Élise, avec Cédric et Loïc, merci d'être venus pour les squatteurs, Clément, professeur et Cyril. Et puis il faut dire ce qui est. Comme dit Bébert,
salutations écologiques et solidaires.
Et on finit avec quoi, Johan ?
Bah, ça va être du Val MC aussi. Et la surprise, soit on désobéit, soit sortir du nucléaire.
On désobéit.
Désobéit.
On fait les deux.
Hey cousin, te souviens-tu les émeutes en 2005 ou l'Arzac 2003? C'est toujours les mêmes qui trinquent le tiers-monde en dehors de l'Europe. Forteresse, les ghettos, les précaires et des millions de détresse. Rien n'arrête les vendeurs d'armes et leurs médias de masse. Rien ne stoppe les publicitaires, ils prennent tout l'espace. Et alors que la donne écologique est au rouge, c'est les plus gros pollueurs qui repeignent tout en vert.
l'heure actuelle, ne pas mettre un high kick dans le décor, c'est se voiler la face et fouetter ses propres frères. Car pendant qu'il rajoute le mot durable à chaque phrase, il continue de piller, de faire le coton, le gaz. Beaucoup de goutte au goutte à goutte, tout pas démonter tout ça. Faut bloquer les ports, les routes et les villas, les séguer là. Faut grimper les tours des firmes et déchirer tous leurs contrats. Réquisitionner les terres et y faire pousser la ria. Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yo Mango. Comme l'assemblée populaire des peuples de Wafaka. Comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther. Comme le mouvement des sans-terre, comme les anti-nucléaires. Rouya, désobéir, c'est maintenant plutôt la mode. On ne peut plus se nourrir de leurs animaux malades. Presque toutes les rivières charrient leurs pesticides. Et silence quand la France supervise un génocide. On entendra toujours dire que tout casse, c'est pas bien. Ou le sang éternel, à quoi bon, ça sert à rien. On oublie que pour avoir mis la planète à genoux, ils n'ont pas été vraiment plus compréhensifs et doux. C'est la course contre la montre, il faut maintenant tout péter. Avec les pays du sud, c'est la solidarité. Nous on est truffés d'amour, pas le plus RFID. L'ADN de la connerie, on va tous le décoder. Beaucoup de coquette au goutte à goutte, ou pas démonter tout ça. Pour bloquer les Bolloré, les Monsanto, les Areva. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion on leur fout le terroir. Comme le clan du néon, comme les déboulonneurs. Comme le groupe résistance à l'agression publicitaire. Comme les brigades de clowns ou les yes men et leurs phares. Comme le groupe génocide made in France au champ de Mars. Comme le mouvement des Contis défonçant.
Qui t'échappait jusqu'à fêter. J'y vais, et vous?
The original, sexy and wild. Better bounce, baby. Yeah, yeah. I'll make you dance, baby. Better bounce, baby. Yeah, yeah. I'll make you dance, baby. Make you dance, baby. Better bounce, baby. Yeah, yeah. It's the bomb, baby. Yeah.
solidaire.